RCF.
Sénateur honoraire de la Loire, maire de Saint-Nizier-de-Fornat, petite commune ou grande commune, il nous le dira, dans les monts du Forêt, conseiller général sur le département de la Loire pendant 26 ans, dont 10 ans consacrés à la vice-présidence du conseil général, et aussi, et surtout, j'allais dire presque, président de l'association Chrétiens élus publics. Je suis avec Bernard Fournier. Bernard Fournier, bonjour.
Bonjour.
Un beau parcours. Vous avez un sacré CV d'élu. C'est un engagement très tôt dans votre vie, ça, l'engagement politique.
Un engagement, oui, qui a été très tôt. Très tôt. Alors, j'appartiens, ce qui ne vous surprendra pas outre mesure, à une famille chrétienne. Nous avions la prière du soir en famille, tous les soirs, systématiquement. Et puis, un oncle qui était prêtre, un grand-oncle prêtre, le cousin de mon grand-père paternel qui était aussi prêtre, etc. Vous voyez, ma grand-mère avait des petites cousines religieuses. Il faut dire, j'ai baigné dans l'atmosphère
chrétienne. Vous êtes tombé dans la marmite étant petit.
Et puis, voilà, et puis des écoles chrétiennes également que j'ai fréquentées dans mon jeune âge. Voilà.
Et c'est ce bain chrétien qui vous a donné envie de vous engager? Ou est-ce que c'est les opportunités?
Alors, petit à petit, au départ, bon, comme beaucoup à l'époque, j'ai été louveteau. Hein, j'ai fait du scoutisme, d'abord à Saint-Roch, puis à Saint-Edmond.
Déjà, ça motive dans l'engagement et
voilà,
au service
tout
des
à
autres.
Fait. Et puis, après, j'ai appartenu aux petits chanteurs, avec le père Ferlet, les petits chanteurs de Saint-Edmond. Voilà.
Alors, je précise Saint-Edmond à Saint-Étienne.
À Saint-Étienne, bien entendu. Il faut le stipuler. J'ai été cœur vaillant, etc. J'ai baigné dans cette atmosphère de... Comment dirais-je, de chrétienté.
Oui, c'est ça, oui. Tout ça, ça,
et quand on est chrétien, eh bien, on doit témoigner de sa foi, on a ce devoir impérieux, on porte une bonne nouvelle, on n'a pas le droit de la garder pour soi. Je crois que c'est un devoir impérieux.
Mais qu'est-ce qui a été un peu le déclic, justement, dans cet engagement politique? Alors, je saute les étapes, parce que je suppose qu'adolescent, vous avez eu peut-être déjà des engagements. Adolescent ou étudiant.
Cette famille chrétienne est également une famille gaulliste. J'ai été éduqué dans le christianisme et puis dans l'admiration du général de Gaulle. Et donc, tout naturellement, lorsque j'ai eu plus de 20 ans, j'ai adhéré au mouvement national des jeunes gaullistes, qu'avait créé le général de Gaulle en 1965. Et puis, petit à petit, j'ai gravi des échelons. J'ai été responsable départemental, puis responsable régional Rhône-Alpes à l'époque, puis responsable national, je suis rentré au bureau national, et puis je suis devenu pendant 9 ans président national du mouvement des jeunes gaullistes.
D'accord. Et en 1965, lorsque vous engagez dans les jeunes gaullistes, vous avez quel âge, sans indiscrétion?
Eh bien, lorsque j'ai adhéré, c'était pas en 65, hein, c'était après.
Ah, c'était après, pardon.
Le mouvement a été créé en 1965.
D'accord, oui.
C'était après le départ du général de Gaulle, c'était dans les années... C'était 69, quand le général de Gaulle est parti, j'ai dit, je ne peux pas rester à ma chaise tranquille.
Et à ce moment-là,
je
vous aviez quel âge?
Je dois poursuivre le combat. J'avais plus de 20 ans. Et voilà, et donc, j'ai gravi tous les échelons du mouvement des jeunes gaullistes. Et puis, après, il y a eu des opportunités qui se sont présentées à moi sans que je les ai vraiment cherchées. Et j'ai été conseiller municipal de ma commune de Saint-Lizier, à côté de Saint-Bonnet-le-Château, dans les monts du Forêt. Je peux bien stipuler. Et puis, trois ans plus tard, j'ai été élu conseiller général du canton de Saint-Bonnet-le-Château. À l'époque, nous avions des petits cantons de 12 ou 13 communes.
Encore, mais oui.
Oui, c'était encore à taille humaine. Et petit à petit, c'était à l'époque de Lucien Neuwirth. Lucien Neuwirth m'a fait rentrer au bureau très vite du conseil général de la Loire. Puis, il m'a nommé vice-président du conseil général. Et puis ensuite, Pascal Clément est devenu président du conseil général. Et il m'a nommé pendant plus de 10 ans premier vice-président du conseil général. Ce qui m'amenait a souvent présidé les séances je le remplaçais à l'époque où il était ministre.
D'accord,
à Paris.
Donc vous avez travaillé avec Lucien Neuwirth, on le sait peut-être, oui. Moi, on connaît Lucien Neuwirth, donc très
le
engagé
résistant.
Aux côtés du général de Gaulle, résistant, et puis avec l'histoire de la pilule aussi, bon ça c'est accessoire si on veut peut-être pas pour les dames, hein, quand même, soyons précis. Et donc, vous étiez aux côtés d'un gaulliste historique.
Tout à fait.
Ça a dû vous marquer, ça vous peut-être motivé aussi un peu plus votre engagement.
Absolument, absolument. C'était un gaulliste pur et dur et qui m'a marqué. Puis j'ai rencontré, quand j'étais responsable des jeunes gaullistes, de nombreuses personnalités. Michel Debré.
Ouais.
Premier ministre du général de Gaulle, Maurice Couve de Murville, dernier premier ministre du général de Gaulle, Jacques Chaban-Delmas, qui a été premier ministre de Georges Pompidou et qui était un gaulliste extraordinaire, un véritable résistant qui a été général à 29 ans. Enfin, et lui, c'est un homme dont j'ai été très proche et que j'ai rencontré très fréquemment.
Donc vraiment motivé. Enfin, porté finalement par toutes ces figures politiques. Et cet engagement politique, donc on l'a dit, c'est un peu aussi la conséquence logique de votre foi chrétienne.
Tout à fait. Et puis, ce que je n'ai pas pensé de vous dire, c'est que j'ai été aussi responsable de l'Action catholique des enfants pendant quelques années sur le secteur de Saint-Bonnet-le-Château, la paroisse de Saint-Jacques du Haut-Forêt, entre autres. Hein. Et puis tout ça, ça m'a... Il n'y a pas de contradiction, si vous voulez, entre ma foi chrétienne et puis ces engagements. Alors des engagements, bon, la CE, etc., et quelques autres, ça semblait assez logique, hein, après le scoutisme, mais l'engagement politique, et j'ai même lu des bouquins à ce sujet, le parallélisme entre le christianisme, ou même, j'allais dire, certaines encycliques, et... la doctrine, si on peut employer cette expression, je mettrai entre guillemets, gaulliste. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, et des parallèles dans toutes sortes de domaines. Voilà la doctrine de l'Église. Et voilà ce qu'a fait le général, ou voilà les principes qu'il a incarnés.
On sait que le général de Gaulle aussi était chrétien.
Était chrétien, convaincu, pratiquant.
Même s'il ne voulait pas la montrer.
Il ne le montrait
pas. Parce qu'il avait le respect de la laïcité à la française.
Il pratiquait. Et il faisait célébrer la messe à l'Élysée par son neveu, hein, le père de Gaulle.
Mmh. Voilà. En début d'année, on a eu la disparition d'un autre grand homme politique, plutôt à la gauche de la politique, c'est Jacques Delors. Vous reconnaissez aussi de cet engagement aussi, vous sentez des affinités aussi. Vous avez parlé de Chaban-Delmas, qui a travaillé aussi avec Chaban-Delmas.
Qui a travaillé avec Chaban, qui était très proche de Chaban.
Vous faites partie de ces hommes politiques qui ont un engagement politique et qui est motivé par quelque chose de plus fort, peut-être plus profond en vous.
Tout à fait. Alors, Jacques Delors était quelqu'un de gauche, effectivement, mais une gauche moderne, j'allais dire modérée. Et c'est quelqu'un pour qui on peut avoir de l'estime, de l'admiration.
Vous avez côtoyé ?
Je n'ai pas côtoyé.
Non, pas côtoyé.
Non.
Vous auriez pu.
J'aurais pu.
Vous n'étiez pas sur les chemins de l'Europe, finalement. Vous
mais
plutôt resté
j'aurais pu
dans,
le rencontrer
dans la Loire
à l'hôtel de la Seille, chez Chaban-Delmas. Ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait.
Et vous êtes retrouvé aussi sénateur de la Loire. On va en parler.
Oui.
Témoin, parole de chrétien.
Bernard Fournier avec nous dans cette émission. Bernard Fournier, donc ancien sénateur de la Loire, sénateur honoraire maintenant, on peut dire, de la Loire. Pendant combien d'années, sénateur ?
26 ans.
26 ans. Donc, parallèlement au Conseil général de la Loire dont vous étiez le vice-président, vous avez été le vice-président. Parallèlement aussi à la mairie de Saint-Didier de Fournin, vous aviez 3 mandats. On avait le droit de cumuler à une époque.
Là, on pouvait. Ouais. J'étais même président pendant 18 ans de la communauté de communes du pays de Saint-Bonnet, qui regroupait 18 communes.
Ça fait pas trop
des
monts
du forêt.
Ça fait pas
ça
trop.
Faisait beaucoup. Ouais. J'ai eu une vie qui a été mangée, pour reprendre l'expression d'un religieux célèbre.
Vous dites manger, mais totalement donné.
Donné.
C'est
J'aime
pas
bien
c'est...
cette expression.
Ça vous aimait, c'est bien, parce que si finalement vous avez fait don de vous-même, de don de votre personne, à la cité, à la vie politique, le politique au sens large finalement.
Tout
parce
à
que
fait.
Bon, vous aviez un engagement politique marqué, bien sûr, dans le gaullisme, mais quand même une politique au sens large. Police de la cité, la vie de la cité.
Voilà. Et puis, je n'ai pas pensé de vous le dire, parce qu'on parlait de mon arrivée au Sénat. Et auparavant, pendant des années, je faisais partie des équipes liturgiques de ma paroisse, hein, avec une équipe de plusieurs hameaux de la commune de Saint-Dizier. Et j'ai participé pendant des années. Et puis, quand je suis rentré au Sénat, j'ai mis un frein pour ne pas gêner un mur. Quand on a des mandats locaux, c'est différent. Lorsqu'on a un mandat national, avec une étiquette bien, bien affirmée, ça peut être quelque peu gênant. Je préférais me mettre en retrait à ce moment-là.
Alors, on disait, vous étiez très occupé, donc, avec plusieurs mandats. Il y a un moment, vous avez peut-être dû en laisser tomber quelques-uns, parce que d'abord, il y a eu des lois qui sont passées qui ont empêché.
Mais avant que les lois n'arrivent.
Ah oui, avant?
J'avais décidé d'arrêter progressivement certains mandats.
Bah, quel premier mandat
vous
avez
arrêté? Parce que j'ai été élu, je suis arrivé au Sénat à la suite du décès de François Mathieu, dont j'étais le suppléant. Donc, c'était en 97.
Donc, François Mathieu, sénateur de la Loire, précédemment.
Sénateur de la Loire.
Avant vous, d'accord.
Qui a été adjoint au maire de Saint-Étienne, qui a été conseiller général également pendant pas mal d'années.
Donc, vous vous retrouvez au Sénat?
Je me retrouve au Sénat. Et donc, petit à petit, j'ai décidé de rester dans l'équipe municipale pour ne pas donner l'impression d'abandonner ma commune et la ruralité. Mais j'ai laissé le poste de maire à un membre de l'équipe. Et je suis devenu adjoint. Mmh. Et puis après, je suis même resté simple conseiller municipal pour aider ma commune et pour ne pas l'abandonner, pour ne pas donner l'impression d'abandon.
Et toujours conseiller général.
Et puis, j'étais encore conseiller général, oui. J'ai décidé d'arrêter, alors que je n'étais pas encore tenu par la loi, d'arrêter le conseil général. Mais ça me semblait c'est un mandat qui est assez proche des gens, proche des réalités, proche des communes, proche de la population. Surtout à l'époque, nous avions des compétences qui étaient beaucoup plus larges que celles que l'on connaît aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui vous a plus enthousiasmé dans ces différents mandats? Qu'est-ce qui vous a porté aussi?
Très difficile. Alors, j'ai beaucoup aimé la communauté de communes que j'ai créée et à la tête de laquelle je suis resté 18 ans. J'ai beaucoup aimé parce que il y avait une très bonne ambiance avec les 18 maires du secteur et on a pu réaliser plein de choses sur le plan économique, sur le plan culturel, etc. C'est un beau mandat. Et puis celui de conseiller général était également très intéressant à l'époque. Parce qu'on ne s'occupait pas que du social, mais également dans toutes sortes de domaines. On aidait les collectivités, mais aussi la population, etc., les associations.
Mais je veux dire aussi, qu'est-ce qui vous a porté? Vous me parliez tout à l'heure de votre vie foi dans votre famille, avec la prière du soir tous les soirs. Est-ce que là aussi, vous étiez porté par votre foi pendant vos mandats?
Ah mais bien entendu, bien entendu.
Comment on arrive justement dans cette vie un peu agitée, où on rencontre des gens très différents, des gens qui n'ont pas la foi que vous auriez pu partager, mais que vous n'avez pas...
Vous vous retrouvez parfois devant des obstacles compliqués, hein, vous n'êtes pas là... La science infuse. Et donc là, la prière, c'est essentiel à mon avis. Les moments de recueillement, hein, quelques petits séjours à la Salette notamment, ou à Notre-Dame-du-Lot, etc. Quelques petits séjours, on prend du recul.
Ces temps de recul.
Je prenais ces temps de recul.
Qui étaient nécessaires pour vous?
Ah mais oui, absolument.
Pour pouvoir remettre...
Donc non seulement la prière, et puis demander... d'être éclairé par l'Esprit Saint, mais aussi des moments de recul.
Parce que la prière, les retraites, c'est ce qui permet de recharger, les accus spirituels en l'occurrence, mais aussi même pour la vie tout court.
Oui, bien entendu.
Et donc pour vous, c'était essentiel. Vous en viez régulièrement, tous les ans, tous les...
Régulièrement.
Oui. C'est difficile.
Et je continue d'ailleurs.
Et donc... J'ai dit, en introduisant cette émission, vous étiez président de l'association Chrétien Élu Public. Vous étiez forcément rapidement adhérent à cette association.
Voilà, c'est une association qui a été créée, qui n'est pas très ancienne, hein, qui a été créée il y a 16 ans à peu près.
Ah non seulement, je pensais que c'était
plus
ancien.
Oui, c'est pas très très ancien. C'était à la suite du pèlerinage national des élus à Lourdes. Et donc, il y avait des élus qui avaient été invités, notamment des parlementaires, hein, députés, sénateurs, mais aussi des conseillers régionaux, départementaux et des maires. Et on s'est dit que c'était au moment du 150e anniversaire des apparitions. Et avec quelques collègues, on s'est dit que ça serait dommage de ne pas continuer ces belles rencontres que nous avions vécues, ces bons moments. Et on a décidé de créer cette structure avec, à l'époque, le Charles Revet, qui était sénateur de Seine-Maritime. Mmh. Voilà. Dans le 76, que l'on dit maintenant. Et donc, cette structure s'est créée avec, dans les statuts, il était prévu que les élus de toute strate soient représentés. Donc, élus nationaux, régionaux, départementaux et élus municipaux. Donc, Charles Revet a décidé d'arrêter la présidence il y a 5-6 ans et m'a demandé de prendre la relève. Et donc chaque année, nous nous retrouvons à Lourdes notamment, à la mi-octobre, avec d'autres élus. Et puis on essaie de se retrouver dans le cadre de conférences, etc.
Vous me parliez de ce pèlerinage des élus, c'est un pèlerinage qui existait déjà depuis quelques années, non ? C'était pas...
Qui était un peu épisodique. Et puis là, on a décidé de le maintenir chaque année. Mmh. Chaque année, alors dorénavant, c'est à la mi-octobre. Et auquel sont conviés les élus, mais il n'est pas suffisamment connu.
Oui, c'est vrai, puis on en parle peu, finalement. On en parle peut-être sur RCF, probablement sur RCF. Mais je veux dire, ce pèlerinage était aussi pour vous un moment de ressourcement ?
Ah mais oui, bien entendu. Parce que, bon, on a les traditionnelles cérémonies, hein. Comment dirais-je, le chapelet devant la grotte, la procession des malades, la procession au flambeau le soir, et puis la messe internationale à la basilique souterraine le dimanche matin. Mais tout au long de ces 3 jours et demi, on a des conférences adaptées aux élus. Donc avec des thèmes qui varient chaque année, on fait venir 2-3 spécialistes, dominicains, jésuites ou des professeurs d'université, enfin des gens de toutes sortes de conditions diverses et variées. Et il y a une conférence suivie d'échanges. Et puis l'avant-dernier jour, c'est cela, oui, parce que le dernier jour c'est le dimanche, le samedi, on fait un petit peu le point. On dialogue, on fait le point sur tout ce qu'on a pu recueillir.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces échanges ?
En tout cas, ça fait du bien de se retrouver entre élus chrétiens,
ouais,
et de se poser les bonnes questions.
Que vous disiez élus de toute strate, mais aussi peut-être de toute tendance politique ?
Oui, ça n'est pas marqué politiquement. Même s'il y a peut-être davantage de gens qui sont un petit peu à droite, un peu plus au centre, mais il y a des gens de gauche, il y en a même qui sont... Bien à droite, il y a des gens avec un petit peu de différentes sensibilités.
Et tout ça sans souci, quoi.
Pendant plusieurs années, nous avions régulièrement une socialiste connue qui venait à tous les pèlerinages. Mmh. Entre autres, je donne cet exemple, etc. Et donc, ça ne posait pas de problème. On était d'accord sur l'essentiel.
Bah oui, il vaut mieux quand même.
Donner de la joie, de l'amour autour de soi. Mmh.
C'est un peu ça, finalement, votre message politique aussi. Ce que vous essayez de faire passer dans vos différents mandats.
Ben voilà, puis en fait, moi quand j'étais gamin, adolescent ou même préadolescent, mon directeur spirituel m'a dit « tu devrais choisir une devise ». C'était le terme qu'on employait à l'époque. Hein. « Vivre pour servir ». Et puis 2-3 ans plus tard, j'avais 14-15 ans, il me dit « alors, cette devise elle est bien, tu peux l'approfondir un peu, tu peux la compléter ». Alors je dis, s'oublier soi-même au profit des autres. Oui, mais là, c'est fort. Hein.
Mais là, c'était les devises du Bernard Fournier Scout ou...
Oui, je n'étais pas... à l'époque, j'étais un gamin. C'était le scout, oui. Mmh. Le garçon d'une bonne famille chrétienne.
Témoin, Louis-Marie Lacroix.
Bernard Fournier avec nous, donc ancien sénateur de la Loire, ancien maire, mais de Saint-Dizier-de-Fornat, on l'a dit, dans les monts du Forêt, presque à la frontière d'ailleurs entre le Puy-de-Dôme et la Loire.
Hein. Vous êtes pas loin du Puy-de-Dôme hein. Et la Haute-Loire.
Oui, c'est vraiment entre, la Haute-Loire aussi, c'est
entre
vrai.
Entre les deux,
ouais. J'oublie souvent.
Aux limites des deux départements. Oui.
Voilà, c'est aussi un lieu un peu charnière, un croisement. C'est peut-être important aussi pour un élu de vivre dans des lieux comme ça, qui sont pas forcément trop centraux. Vous avez parlé de ruralité tout à l'heure. C'était quelque chose qui était important dans vos mandats, ça.
Oui, et puis j'étais pendant 20 ans président des maires ruraux de la Loire, président de l'Union des communes rurales de la Loire.
Encore un autre
qui
mandat.
Qui avait été créé, un autre mandat, structure qui avait été créée par Étienne Furtos, maire d'Unia, qui avait été conseiller régional.
Une petite commune dans la plaine du Forêt.
Dans la plaine du Forêt, et qui était consul général de Madagascar. C'était un personnage. Et donc, cette structure a été créée il y a 60 et quelques années. Ensuite, c'est le maire de Violette, dans la Loire, toujours dans les monts du Lyonnais, Robert Stumpf, qui a pris la succession de cette structure. Et puis, je l'ai présidé pendant 20 ans. J'ai arrêté il y a 4-5 ans, c'est récent. Oui, 3-4 ans, c'est relativement récent. Et donc, 240 communes adhérentes, vous voyez. Et c'était la ruralité qu'on essayait de porter au quotidien et de défendre. Parce qu'on a, la ruralité a quelque chose à apporter au pays. Souvent, on la plaint, on la montre du doigt. Hein. Nous sommes des Beaussaignes, comme on dirait, du côté de Saint-Étienne.
Oui.
Eh bien, non, nous apportons quelque chose.
Cette ruralité, donc, qui a souffert aussi.
Oui.
Qui souffre encore. Vous l'avez vu un peu ça? Au cours de vos mandats, vous avez vu ce déclin de l'agriculture, enfin pas ce déclin, mais ces vicissitudes de l'agriculture, que ce soit dans le Forêt ou ailleurs d'ailleurs. Vous l'avez accompagné ?
Je l'ai vécu au quotidien, je l'ai accompagné. Et on allait jusqu'à voir des ministres pour défendre la cause. Puis je participais régulièrement aux congrès nationaux de l'AMRF, naturellement.
C'est
donc
quoi,
ça a été des beaux combats. L'AMRF, c'est l'association des élus ruraux.
D'accord.
Des maires ruraux.
Ah,
association
oui,
des maires ruraux de France.
Des maires ruraux, d'accord. Oui. Bernard Fournier, aujourd'hui, vous êtes en retraite, quasiment.
Oui.
Vous n'avez plus de mandat.
Je n'ai plus de mandat. Je l'ai arrêté progressivement. J'ai arrêté la communauté de communes. J'ai arrêté le conseil général volontairement, etc. Et donc, j'ai arrêté aussi mon mandat de conseiller municipal. Et donc, je n'ai plus de mandat.
J'allais dire, vous n'êtes pas en manque.
J'ai arrêté en octobre le Sénat.
C'est
donc,
tout récent.
C'est tout récent.
On est en janvier 2024 et
oui,
j'ai arrêté en octobre 2023.
Encore, pas mal de courriers, de rendez-vous. J'appartiens à l'amicale gaulliste du Sénat, etc. Donc, j'ai quelques allers-retours.
Puis, vous êtes toujours président de l'association chrétien élu public.
Voilà, tout à fait. Mm-hmm. Donc, ce qui m'amène à me rendre à Paris, au siège de l'association qui est à Sainte-Clotilde. Hein, chez l'aumônier des parlementaires.
Qu'est-ce qui fait vivre encore cette association? Parce que, bon, on est dans un pays où chaque fois qu'on entend chrétien, on nous brandit un étendard de laïcité. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? C'est parfois, on est accusé parce qu'on promeut le christianisme. Lorsqu'on est élu, vous n'avez pas été amené à le faire quand même, puisque vous aviez le respect de cette laïcité. Mais quand même, on n'est pas caché non plus votre foi.
Je ne l'ai jamais
dans
caché.
Dans vos engagements.
Je ne l'ai jamais caché. Et je crois que la laïcité est très, très mal comprise actuellement en France.
C'est-à-dire?
La laïcité, c'est ce qui doit permettre à chacun d'exprimer ses convictions profondes, sans les imposer. Mais chacun doit pouvoir pratiquer sa religion, avoir ses convictions, les faire valoir. Je crois que la laïcité était très mal comprise. Pendant des décennies, le terme de laïcité, ça voulait dire contre les religions et notamment contre la religion chrétienne. Enfin, on a vu ça au début du siècle précédent.
Oui, c'est vrai. Ça revient parfois.
Et ça revient parfois.
Ça ne vous fait pas peur, ça ne vous fait pas mal, ça, d'entendre
si,
parfois?
Si, ça me fait mal. Et puis, on ne peut pas avoir honte de ses racines chrétiennes, de notre beau pays. Non.
Non.
On n'ose pas trop le dire, mais
on va pas vous le dire
si
ça sur cette
dire.
Antenne. Hein, on peut pas le dire sur cette antenne. Et donc, c'est ce qui vous portait aussi, quand même, cette fois. Je reviens un peu là-dessus, parce que ça me paraît important qu'un homme politique puisse être porté. Il y a des hommes politiques qui sont portés par d'autres engagements, par d'autres fois, par d'autres croyances. Il y a ceux qui croyaient au grand soir, il y a ceux qui croyaient, etc. Il y a des protestants aussi connus, qui avaient aussi de la foi chrétienne et qui étaient portés par cet engagement. J'ai parlé de Jacques Delors tout à l'heure. Vous, c'est ça, c'est ce qui vous a porté, quand même, tout au long de ces années.
Oui. Or, d'abord, comment dirais-je ? J'ai eu des interrogations. Je me suis dit, est-ce que ton combat politique, est-ce que tes engagements ne sont pas en contradiction avec ta foi chrétienne ? Première des choses. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des bouquins que j'ai lus et qui faisaient le parallèle entre les encycliques, notamment, et puis, j'allais dire, les principes fondamentaux du gaullisme. Ça m'a rassuré. Mais souvent, je me suis posé... Je me suis dit, est-ce que en servant le monde politique, tu n'es pas en contradiction avec ta foi chrétienne?
Ah, est-ce qu'il vous est arrivé justement de vous poser ces questions-là lorsque vous avez des décisions à prendre, des décisions un peu importantes?
Au moment de certaines décisions, oui, bien entendu. Et là, il n'y a que la prière, l'invocation à l'Esprit Saint.
Le pape François parlerait de discernement aussi.
De discernement, un peu, oui. Oui, tout à fait.
Et donc, il faut trancher. Des moments, il faut décider, il faut trancher. Est-ce que ça vous est arrivé de trancher en contradiction avec ce que vous croyez ? Je ne vous demande pas de cas précis, mais simplement...
Je ne crois pas. J'ai été parfois tiraillé, mais avec le recul, aujourd'hui, je ne crois pas avoir voté ou pris des décisions qui allaient à l'encontre de ma foi chrétienne. Je ne crois pas.
Parce qu'il y a pu y avoir des débats, je pense au Sénat, où vous n'avez pas vécu les récents débats sur l'immigration, vous auriez pu. Comment on fait dans ces cas-là, quoi ?
Oui, puis on a eu des débats sur d'autres sujets qui étaient très douloureux, hein, et où même mon groupe politique était partagé.
Bernard Fournier, dans cette émission, vous êtes témoin, on a dit que vous étiez porté par votre foi. Est-ce qu'il y a aussi une parole de l'Évangile qui vous a porté ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui chaque fois était pour vous, j'allais dire presque une force supplémentaire dans vos engagements ? Je vous prends un peu à froid.
Oui,
là.
Alors il y a eu une phrase essentielle de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Ou alors, soyez des serviteurs. Il l'a dit autrement, mais je prends un raccourci.
Je ne suis pas là pour être servi, mais pour servir.
Oui. Vous savez, quand le Christ se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds, bon, c'est une belle image. Hein. Je crois qu'on est là au service des autres.
Pour vous, cet engagement politique, c'était ça, c'était le service des autres, le service de la communauté des hommes.
Et puis le service de ce pays que j'aime passionnément.
Bah, vous continuez à l'aimer, je suppose,
oui,
quand même.
Que j'aime, je n'ai pas dit aimer.
Ah oui, c'est vrai.
Que j'aime passionnément.
Vous n'avez pas dit que j'ai aimé.
Ou que j'ai aimé, peut-être. Enfin, que j'aime passionnément.
Voilà. Et donc, maintenant que vous êtes en retraite, vous reprenez peut-être vos engagements sur la paroisse, du coup.
Probablement, ce n'est pas...
C'est pas encore.
C'est pas une décision qui a été actée. J'ai rencontré à sa demande notre évêque aussi. Je suis prêt à aider le diocèse. D'une manière discrète.
Je ne sais pas encore sur quoi exactement. Il n'y a rien de décidé. Bernard Fournier, merci. Et puis, continuez sur votre route d'homme politique en retraite, mais pas forcément en retrait.
Mais merci. Je ne serai pas en retraite.